tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Depuis la propagation du COVID-19, les grandes entreprises du secteur des technologies de l'information se sont montrées actives vis-à-vis de l'introduction du télétravail. Désormais, elles commencent à s'assurer d'espace pour faire revenir leurs employés. Mais face à la fin du travail à distance, les opinions du patronat et du personnel divergent. Plusieurs grandes entreprises du secteur des technologies de l'information envisagent de maintenir l'actuel système de télétravail tout en préparant des espaces de travail pour accueillir de nouveau leur personnel. La première entreprise sud-coréenne d'informatique, Naver, en fait partie. Elle est en train de construire des locaux juste à côté de son siège situé à Seongnam, dans la province de Gyeonggi. La fin des travaux est prévue pour le premier semestre de cette année. Pour ce qui est de Kakao, l'une des principales entreprises spécialisées dans les services Internet, la société prévoit de louer pendant 10 ans tout un bâtiment en construction à Pangyo dans la même province. Lorsque la construction de cet immeuble sera achevée en mai, la firme y rassemblera toutes ses principales filiales qui sont actuellement dispersées à divers endroits de la ville. Certaines compagnies de ce secteur projettent d'aménager les bureaux de leurs locaux centrés sur le travail individuel en espaces de commodité et salles de réunion. Et ce, pour en faire des lieux de communication et de collaboration. En revanche, beaucoup de salariés, habitués au travail à domicile, n'accueillent pas ce changement à bras ouverts. Car cette mesure signifie qu'ils vont devoir retourner bientôt à leur bureau et refaire le trajet entre la maison et le lieu de travail pendant les heures de pointe le matin et le soir. Et sur ce point, le secteur des technologies de l'information a plus de soucis que les autres. Car ces deux dernières années, en raison de la distanciation sociale, le télétravail s'est généralisé. Notamment dans ce secteur, le travail à distance est apparu comme une nouvelle norme, considéré par les employés comme un système de soutien pour le bien-être du personnel. De ce fait, après la fin de la pandémie, si les sociétés abolissent soudainement ce système, cela risque de provoquer une opposition parmi les employés. En outre, certains prévoient que ce changement pourrait entraîner une immense vague de démissions. À présent, les entreprises du secteur sont en lice pour recruter des programmeurs compétents. Elles leur proposent des salaires plus élevés avec des options d'achat d'actions d'une valeur importante. Dans ce contexte, le retour au bureau devrait avoir un effet négatif. Les programmeurs, de leur côté, ont tendance à préférer un environnement de travail libre. Cela étant, si les conditions sont similaires, il est fort probable qu'ils choisiront des entreprises qui autorisent le travail à distance. Et effectivement, consciente de cette tendance, plusieurs firmes du secteur ont déclaré maintenir indéfiniment le système de télétravail. Certaines PEC travaillent pour une plateforme de services financiers mobiles. Et il y a quelques jours, elle s'est fait colorer les cheveux dans le salon de coiffure de son entreprise. Et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, puisque tout le personnel de celle-ci peut se rendre au salon gratuitement. De ce fait, l'employé PEC s'y rend toutes les deux semaines pour se faire coiffer. Vous pouvez penser que c'est anecdotique, peut-être, mais ce service n'est qu'une partie du système de soutien pour le bien-être du personnel de cette firme. Ses employés peuvent profiter d'un café le matin, d'un service de réparation de vêtements ou d'expédition de colis. Ces derniers temps, en embauchant des jeunes nés entre les années 1980 et 2000, le système de soutien pour le bien-être des employés évolue. Auparavant, il consistait à fournir aux employés des subventions pour les frais d'éducation de leurs enfants ou le congé maternel. Mais maintenant, les entreprises permettent à leur personnel de faire appel aux services de nettoyage de leur domicile, de venir au bureau avec leurs animaux de compagnie ou d'avoir recours à des consultations psychologiques. La Banque Shinhan, par exemple, offre de l'argent comme cadeau à ses employés célibataires. Il s'agit de tenir compte de l'équilibre entre eux et les employés mariés qui reçoivent de l'argent comme cadeau à leur anniversaire de mariage. L'entreprise de technologie financière Finda, de son côté, aide son personnel à bénéficier d'un prêt pour logement sans intérêt jusqu'à 100 millions de won, soit 74 000 euros. Ce n'est pas tout. Si ces employés s'achètent des outils nécessaires pour le travail, par exemple des bureaux réglables en hauteur, la boîte leur rembourse l'argent dépensé jusqu'à environ 900 euros. Son personnel estime que ces mesures contribuent à améliorer leur niveau de vie et à avoir un sentiment d'appartenance. L'évolution de ce type de système de soutien est due au changement de mentalité des demandeurs d'emploi d'aujourd'hui. Selon un sondage, ces derniers choisissent des entreprises en prenant en considération le salaire en premier, puis le système de soutien pour les employés, les perspectives d'avenir et le potentiel du développement des compagnies et la stabilité. Contrairement à la vieille génération qui prônait les entreprises qui rémunèrent le plus, pour les jeunes d'aujourd'hui, les bénéfices pour le personnel sont considérés comme un critère important dans le choix des lieux de travail. D'après le représentant d'une entreprise, auparavant, celle-ci mettait à la disposition du personnel des sachets de café instantanés au bureau. Maintenant, elle propose du café en grains adapté au goût de chaque employé. Ainsi, les compagnies investissent dorénavant activement pour s'assurer du soutien et de la fidélité de leur personnel. Et voici une chanson de circonstance interprétée par Red Velvet, Le Bonheur.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour de mercredi 2 mars, vous êtes en compagnie de Ko Jong-san. Park est une femme au foyer d'une cinquantaine d'années. Elle a récemment été infectée par le Covid-19. Alors, elle ne pouvait pas sortir de chez elle, mais elle n'avait aucun problème pour vivre. Car au lieu de se rendre dans une grande surface, elle a commencé à utiliser une application mobile pour faire ses courses. Elle s'est aussi fait livrer des plats cuisinés via un logiciel de livraison. En effet, d'habitude, elle achète souvent des aliments pour ses animaux de compagnie et des coupons électroniques sur Internet pour les offrir à ses amis comme cadeau. Autrefois, les quinquagénaires qui ne sont pas habitués aux appareils numériques étaient appelés enfants perdus dans le numérique. Maintenant, ils émergent comme des clients importants dans les achats en ligne. S'éveillant à la consommation sans contact, ces individus ne se limitent pas à acheter en ligne des vêtements ou des appareils technologiques. Ils se lancent également dans les transactions d'objets d'occasion ou de stock. Selon un grand site de vente en ligne, l'année dernière, le taux de croissance des ventes des articles dont la principale clientèle est composée de personnes de plus de 50 ans a considérablement augmenté. Les produits alimentaires frais de 35%, les aliments fonctionnels pour la santé de 34% et les produits de luxe importés de 64%. En plus de ces marchandises, les consommateurs de cette tranche d'âge ont beaucoup utilisé les e-boutiques pour acheter des cadeaux ou investir pour leurs loisirs. Ainsi, le chiffre d'affaires des articles liés au camping ou à la pêche et celui des coupons électroniques ont respectivement grimpé de 15% et de 89% par rapport à l'année précédente. En particulier avec la propagation de la pandémie qui a banalisé le service par contournement, la consommation des appareils numériques par les individus d'âge mûr s'est considérablement accrue. En effet, leurs achats de boîtiers décodeurs pour le service par contournement et de projecteurs destinés à regarder des films ont bondi de plus de 300%. Quant aux appareils de réalité virtuelle qui permettent de jouer aux jeux vidéo ou d'apprécier les vidéos d'une manière plus réelle, ils ont enregistré une hausse des ventes de 30%. Dans ce contexte, les quinquagénaires sont devenus une clientèle ciblée aux côtés des quadragénaires, car ils partagent le mode de vie de leurs enfants et ils sont fidèles à leur plateforme préférée. De plus, ils ont un grand pouvoir d'achat. D'autre part, ils sont aussi des clients importants des plateformes de vente d'occasion ou de stock. Selon la plateforme Resync, spécialisée dans ce dernier, l'an dernier, ces individus d'âge moyen ont représenté 33% de son chiffre d'affaires. Et chez Dangun Market, la principale plateforme de transactions d'objets d'occasion, parmi ses utilisateurs, les quadragénaires et les quinquagénaires représentaient 47%, un niveau plus élevé que celui des jeunes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années avec 46%. Le marché des ingrédients alimentaires pour enfants est devenu une nouvelle source de profit du secteur de l'alimentation. Malgré la crise sanitaire, ce secteur enregistre une croissance en rapportant un gain intéressant aux entreprises concernées. Selon une marque d'ingrédients alimentaires destinée aux enfants de 3 à 7 ans, son chiffre d'affaires de l'année dernière a bondi de 35% par rapport à 2019, période d'avant Covid-19. Une autre marque du même domaine a aussi connu un résultat satisfaisant. Son chiffre d'affaires s'est envolé de 110% par rapport à 2018. Le secteur de l'alimentation estime que le volume de ce marché spécifique s'élève à 750 millions d'euros. Si ce marché a affiché un tel résultat positif, c'est grâce à l'augmentation de la demande pour les ingrédients de bonne qualité. Avec la diminution du nombre d'enfants par famille, les parents s'efforcent de nourrir leur progéniture d'ingrédients de haute qualité, même si cela coûte cher. D'après l'Institut national des statistiques, en Corée du Sud, le nombre de naissances de l'année dernière était de 265 000, le niveau le plus bas depuis le début de l'établissement des statistiques en la matière. Celui d'enfants de 0 à 7 ans baisse aussi, de 3,6 millions en 2015 à 3,2 millions en 2019, soit une diminution de 11%. Malgré cette décroissance, les entreprises spécialisées dans les ingrédients alimentaires pour enfants, notamment destinés au déjeuner offert dans ce type d'établissement de soins, n'en sont pas affectées. Car, contrairement à cette chute, le nombre de familles dont les deux parents travaillent a progressé. Cela a multiplié celles qui doivent confier les enfants à la crèche ou à l'école maternelle au lieu de s'en occuper à la maison. Ainsi, le nombre d'élèves de ces établissements a maintenu, même au cours de cette crise sanitaire. En visant cette clientèle, les entreprises de ce secteur mènent des stratégies centrées sur les produits haut de gamme. Elles proposent des marchandises adaptées aux enfants en termes de taille, de forme et d'emballage des ingrédients. Et elles mettent en avant des produits agricoles ou des viandes écologiques et biologiques. Certaines d'entre elles gèrent des centres de contrôle afin d'assurer la bonne qualité des aliments durant tout le processus, de la production jusqu'à la distribution. Eh bien, pour cette pause musicale, je vous propose d'écouter la chanson de VOS pour la personne précieuse. Avez-vous déjà entendu parler du terme mukbang? Ce mot désigne une vidéo diffusée en temps réel dans laquelle une personne mange. On peut même dire ingurgite une très grande quantité de nourriture. En Corée du Sud, depuis quelques années, ce type de contenu est très apprécié par les internautes qui sont surpris des énormes quantités d'aliments et de la vitesse de ceux qui les avalent dans ces vidéos. Mais certaines voix critiquent le fait que ces contenus stimulent l'appétit des gens d'une façon anormale. Or, dernièrement, contrairement à ces tendances, de plus en plus d'individus cherchent des contenus qui consistent à manger de petites quantités de nourriture. Par exemple, mâcher lentement la moitié d'un œuf pendant presque 3 minutes, manger seulement un quart d'une pomme ou prendre un repas équilibré composé de légumes et de viande d'une quantité convenable. Un certain Yi, salarié de 28 ans, est amateur des mukbangs. Récemment, il a contemplé pendant longtemps une vidéo dans laquelle une personne mangeait un bol de nouilles froides et elle a mis plus d'une demi-heure pour manger la moitié du plat. Ce contenu était complètement différent de ceux qu'il regardait normalement. Et en le regardant, il s'est demandé si les gens qui mangeaient très vite pouvaient sentir le goût des mets. Il a dit que la scène où une personne prenait tout son temps pour manger en petite quantité et apprécier la saveur du plat lui a permis de se sentir plus serein. Beaucoup de spectateurs laissent des commentaires dans ce genre de contenu comme « J'ai pris conscience du fait que je mange beaucoup et trop vite » ou « Étant donné que la suralimentation est un problème sérieux pour les gens d'aujourd'hui, il serait préférable de changer ses habitudes alimentaires pour manger moins. » Ces vidéos sont aussi populaires chez les jeunes qui font attention à leurs lignes. Les spécialistes expliquent ce phénomène par la croissance de l'intérêt pour des habitudes alimentaires saines à la place des repas exagérés. Et selon eux, beaucoup s'inquiètent des mukbangs qui exercent une grande influence sur l'alimentation des gens. Dans ces situations, il est préférable que les contenus qui montrent des moyens de manger de manière saine attirent plus l'attention. La bibliothèque centrale de Paju a ouvert ses portes en 2005. Elle a été réaménagée quand elle a été sélectionnée comme projet d'infrastructure du quotidien lors d'un concours organisé en 2020. Cette modification l'a transformée en bibliothèque hors du commun. Comme il s'agit d'une bibliothèque, elle abrite des salles de lecture et des archives. Or là-bas, il existe un espace spécial. Au cinquième étage de l'établissement se trouve un endroit où on collecte des bouchons en plastique et des briques de lait vides. Et à côté, il y a une machine de moulage par injection plastique. Le samedi à 15h, on la met en marche pour transformer des bouchons plastiques ramassés en barres de lecture. Ceci est un assistant de lecture qui sert à maintenir un livre en grand ouvert d'une seule main en y insérant le pouce. Dans cet établissement, on peut trouver également d'autres initiatives écologiques. Le meuble et les ouvrages au cinquième étage sont fabriqués à partir d'un mélange de béton et de plastique usé. Et à côté des purificateurs d'eau est placée une affiche portant cette inscription. Utilisez un gobelet à la place d'un verre en papier. De plus, toutes les feuilles mises à la disposition des utilisateurs de la bibliothèque qui veulent prendre des notes sont celles dont un côté a déjà été griffonné. Le quatrième samedi de chaque mois, un événement écologique baptisé Épisode Vert, Jour Vert est organisé de 10h à 17h. À cette occasion, se tient un marché d'objets zéro déchet où les citoyens peuvent acquérir des produits sans emballage. Avant de passer le micro à Antoine Coppola pour Tout un cinéma, écoutons la chanson de G.O.D. Le chemin.
어디로 날 데려가는지 그곳은 어딘지 알 수 없지만 알 수 없지만 알 수 없지만 오늘도 난 걸어가고 있네. 사람들은 길이 다 정해져 있는지 아니면 자기가 자신의 길을 만들어가는지 알 수 없지만 알 수 없지만 알 수 없지만 이렇게 또 걸어가고 있네. 사랑한 사람들인지 알고 싶지만 알고 싶지만 알고 싶지만 아직도 답을 내릴 수 없네. 자신 있게 날 길이라고 말하고 싶고 그렇게 믿고 돌아보지 않고 후회도 하지 않고 걷고 싶지만 걷고 싶지만 걷고 싶지만 아직도 나는 자신이 없네.
Bonsoir à toutes et à tous. Après les énormes succès en ligne de All of Us Are Dead, Hellbound, Quiet Sea et Squid Game, le cinéma de la Corée du Sud est en ébullition. Les spectateurs du monde entier sont en attente de films et de séries du pays du matin clair. Lotte Entertainment, un des majeurs producteurs et distributeurs de films, répond en refourguant une séquelle de The Pirates, un succès de 2014 avec Son Ye-jin qui bandait son arc comme pas une. Qu'en est-il donc de cette fausse suite ? En général, les films de pirates ont une intrigue assez claire, car ils sont des variations sur un très vieux genre du cinéma mondial. Avec le scénario de The Pirates, The Last Royal Treasure, sorti le 26 janvier 2022, le réalisateur Kim Jong-un et le scénariste Chun Sung-il ont visiblement été tiraillés par l'idée de faire une suite tout en s'en démarquant. Et ceci, tel et si bien, que si quelqu'un dans la salle a réussi à suivre l'intrigue, il aura gagné un des pingouins du film Faute d'Esquimaux. Bref, en gros, il s'agit de la recherche d'un trésor de la famille royale Goryeo, qui a mystérieusement disparu. Cette dernière ne lésine pas et offre des roubles en pagaille pour ceux qui ramèneraient le trésor. Sur ce arrive le bandit, Woo Mu-hi, joué par le sémillant Kang Han-eul, et son compère Kang Sop, joué par Kim Song-ho. Mais il y a déjà la célèbre pirate jouée par l'éthéré Han Yo-ju et le tortueux rebelle Bu Hong-su, joué par Kwon Sang-woo, sur le coup, qui va réussir avant la fin du film. Le suspense est évidemment terrible, mais c'est avant tout une comédie d'acteurs qui font des clins d'œil à leurs fans. Il est clair que la réponse de Lotte à la désertification des salles de cinéma est de proposer des films dits « all cast ensemble », c'est-à-dire comprenant au moins trois stars locales. Cela assure un minimum d'entrée de spectateurs masqués. Nous avons donc Kang Han-eul qui s'en sort bien avec sa coiffure afro. De l'aveu de l'acteur, sa permanente a été le challenge le plus délicat du film. 3 ou 4 heures de boulot chez le coiffeur toutes les 2 semaines. Mais il y a mieux. Il a dû se laver les cheveux de manière spéciale car son brushing était si serré que les cheveux ne se mouillaient pas. Il a même fini par en perdre une poignée aux grandes dames de ses admiratrices. Mais la surprise du casting vient du rôle de la pirate sexy passant de Son Ye-jin à Han Yo-joo. Les fans du premier épisode sont restés dubitatifs sur le choix de l'actrice et les critiques ont fusé dès la sortie du film. Certes, Han Yo-joo semble plus s'intéresser à son look, notamment ses cheveux longs frisés, probablement concoctés chez le même coiffeur que Kang Hanul, qu'à son personnage. Mais on peut aussi comprendre le choix de la production. Depuis 2012 et Love 911 avec Gosu, Han Yo-joo est devenue une star interasiatique, autant au Japon qu'en Chine. Avoir Han au casting est un atout pour l'exportation du film. De plus, depuis ses films avec Kang Dong-won, notamment Ilan The Wolf Brigade pour les Américains de Warner Bros., elle s'est faite connaître aux USA dans la série Treadstone. Et elle est aussi dans la série Happiness sur les plateformes chinoises Ikiyi et coréennes TVN et Tving. Bref, l'aura internationale a primé sur la performance du personnage. Enfin vient Oh Se-hoon, star K-pop de EXO, en pirate bon teint. Que demande le peuple ?
Kabulka.
Kabulka.
L'apparition des pingouins restera probablement les moments clés de ce film à clé. Mais les pirates ont toujours été farfelus dans l'histoire du cinéma. Le réalisateur a raison de citer comme influence le célèbre « L'île au trésor » de Robert Louis Stevenson. Le roman fut adapté dès 1912 au cinéma. Dès lors, un genre à part entière était né, avec comme idole indéboulonnable l'énorme Douglas Fairbanks. L'acteur était admiré par Na Woon-gyu en personne, le parrain du cinéma en Corée. Puis, dans les années 1930, vint Errol Flynn, qui ajouta du glamour à ses rôles de pirate. Glamour dont on retrouve la trace, encore aujourd'hui, de Kang Hanul à Johnny Depp. Dans tous les cas, la figure du pirate est devenue un mythe positif pour la jeunesse à la recherche d'espaces frais et d'aventures joyeuses. La féminisation du personnage est à noter. Certes, la tendance est générale au cinéma depuis le mouvement MeToo. Mais ceux qui attendent de voir Han Yo-joo en nouvelle femme du futur seront déçus. Car l'esprit du pirate est bien au-dessus des questions de genre.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Jang-sun avec Kim Hong-ju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée.
D'union. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de Trait d'Union. Chaque mercredi, pendant 15 minutes, nous mettons en lumière ce qui se passe sur et autour de la péninsule coréenne. Vous êtes aujourd'hui en compagnie de Xavier Liotet. La Corée du Nord aurait fait tout son possible pour endiguer la propagation de la culture extérieure, notamment en punissant très sévèrement toute personne importante détenant ou distribuant du contenu culturel sud-coréen en vertu d'une nouvelle loi contre la pensée réactionnaire. Malgré cette volonté affichée, il semblerait que les séries télévisées et la musique pop sud-coréenne jouissent d'une immense popularité au nord du 38e parallèle. Cela signifie-t-il qu'il existe au sein de ces frontières de pareilles vedettes de la chanson, telles que les artistes de K-pop en Corée du Sud? Aujourd'hui, le professeur John Young-sun de l'Institut des Humanités et de la Réunification à l'Université Kronguk à Séoul nous en dit plus sur la musique populaire nord-coréenne. Il est souvent dit que la musique populaire du royaume ermite diffère beaucoup de celle de son voisin du sud.
우리가 보통 알고 있는 대중음악은 정확히는 없다고 봐야 되거든요. 대중이라.
Il est assez juste de dire que les deux pays n'ont que très peu en commun en fait de musique populaire. Dans le nord, le type de musique diffusée à la population est l'affaire de l'État. On peut par exemple citer les différentes chansons vantant les politiques et la révolution du parti. Les hymnes à la gloire du dirigeant suprême sont considérés comme la forme de musique populaire la plus typique. Le pays utilise l'expression culture du peuple plutôt que culture populaire, ce qui signifie que toutes les formes d'art sont centrées sur le peuple et doivent donc refléter les sentiments de celui-ci. Mais dans le régime nord-coréen, c'est le parti qui représente les sentiments du peuple. Autrement dit, les chansons qui font la promotion des politiques du parti constituent la musique destinée au grand public.
북한은 우리 대중문화라는 말 대신에 많이 쓰는 것 중에 하나가 인민문화라는 말을.
La Corée du Nord a ses propres chanteurs populaires, dont Hyun Sung-wol, ancienne directrice de l'orchestre Samjiyon. L'orchestre nord-coréen a organisé des représentations au sud pour célébrer les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018. À l'époque, ces interprètes étaient célèbres dans leur pays d'origine, bien qu'ils n'existent pas à proprement parler de vedettes au nord et que les chanteurs travaillent comme fonctionnaires.
Contrairement à la Corée du Sud, où les musiciens se produisent individuellement ou sont gérés par des agences de divertissement, tous les artistes nord-coréens appartiennent à des organismes d'État. Au Sud, certaines personnes sont repérées alors qu'elles marchent dans la rue ou accèdent instantanément à la célébrité. De tels cas ne se rencontrent pas dans le Nord, où certains artistes non professionnels pourraient cependant avoir la possibilité de s'engager dans des activités musicales s'ils se distinguent lors de compétitions locales avant d'être affectés à des troupes artistiques.
Une chanson est parfois plus efficace qu'un discours pour exercer une influence et transmettre un message important. Le régime nord-coréen l'a bien compris et a investi cet art populaire pour en faire un puissant moyen de propagande et de contrôle idéologique.
Dans les chansons nord-coréennes, rien ne compte plus que le message. La mélodie n'a d'autre fonction que de porter celui-ci. Ce que les sud-coréens appellent culture et art, les nord-coréens l'appellent littérature et art. Littérature implique ici des histoires ayant un début, un milieu et une fin, et dont le but est de transmettre un certain message. Si celui-ci est délivré de manière musicale, on parle de chanson, alors que s'il prend la forme d'une peinture, on parle d'art pictural. Le message est constitutif de toute forme d'art nord-coréen, lequel a pour objectif clair de promouvoir les politiques du parti auprès du public d'une manière divertissante. En clair, il est tout simplement inconcevable d'apprécier la musique en elle-même, c'est-à-dire en ignorant le message qu'elle véhicule.
Les paroles ou les thèmes des chansons nord-coréennes sont le plus souvent inspirés de la littérature. Dans de nombreux cas, les collections de livres sur les anciens dirigeants constituent le thème principal des chansons.
Certains récits ont très largement nourri l'art nord-coréen, tout comme la mythologie grecque et la Bible ont nourri la culture européenne. Les récits sur l'ancien leader et fondateur du régime, Kim Il-sung, ont été constamment recréés sous forme de nouvelles histoires. C'est pourquoi la série de livres sur sa lutte révolutionnaire anti-japonaise intitulée Histoire immortelle est considérée comme si importante. De même, la série Guide immortel décrit les réalisations révolutionnaires de l'ancien dirigeant Kim Jong-il. Ses collections de livres restent à ce jour régulièrement modifiées et complétées. Par ailleurs, les instructions des dirigeants sur les chantiers de construction et dans d'autres domaines liés à l'économie donnent souvent matière à des chansons. Plus récemment, la série Voyage immortel consacrée au dirigeant actuel Kim Jong-un devrait constituer un thème majeur pour la culture et l'art du pays.
Si la plupart des chansons nord-coréennes promeuvent les hauts dirigeants, leur politique et la révolution, certaines traitent aussi de la vie quotidienne du peuple et de ses émotions. Contrairement aux chansons révolutionnaires, les chansons de la vie, ainsi qu'on les appelle, jouissent d'une certaine popularité parmi les citoyens. Elles sont censées être chantées d'une certaine façon, certaines avec douceur, gaieté, sur un rythme rapide, d'autres avec éclat et joie. Ces instructions sur le style de chant prévu sont précisées au début des chansons.
모든 예술은 정치 경제적인 상황에 영향을 받습니다. 북한이 1980년대
L'art est fortement influencé par les situations politiques et économiques. Dans les années 80, l'économie nord-coréenne était stable et Kim Jong-il était désigné comme l'héritier présomptif du régime. À cette époque, quand la génération d'après-guerre a commencé à entrer dans la vie active, elle n'était pas vraiment intéressée par la révolution anti-japonaise ou la guerre. La Corée du Nord avait donc besoin de chansons qui reflèteraient mieux les émotions de cette nouvelle génération. C'est ainsi qu'est apparue une musique aux airs optimistes et entraînants, avec des paroles révélant des sentiments personnels. Parmi ces chansons de vie, citons Women or Flowers, Girls are Whispering et City Girls Come to a Village to Get Married.
그런저런 풍조가 맞물려가지고 생활 속에서 좀 낙천적이고
La chanson « City Girl Comes to a Village to Get Married » a été écrite en 1990, composée par l'artiste du peuple Lee Jong-ho et chantée par le chanteur populaire Lee Young-suk. Elle a gagné énormément en popularité et a même été adaptée en film 3 ans plus tard.
La décision de diffuser de nouvelles chansons à la population relève de l'appréciation du régime nord-coréen.
Le pays organise souvent un spectacle spécial intégrant les nouvelles chansons de l'année ou les présente lors de concerts donnés à l'occasion de fêtes nationales. Parfois, les médias en font la promotion. Le journal officiel du parti au pouvoir, le Lodong Shinmun, publie les paroles, le style selon lequel la chanson doit être chantée et la musique. Les habitants peuvent aussi apprendre de nouvelles chansons sur leur lieu de travail ou des artistes se sont envoyés pour les aider à mener à bien leur activité musicale dans chaque petite unité à laquelle ils appartiennent. La Corée du Nord organise des concours de chant pour mieux promouvoir les nouvelles chansons.
Parallèlement à l'émergence de divers genres musicaux comme les chansons de la vie, des groupes de musique populaire ont été créés, dont le Wang Jae-san Light Music Band et l'ensemble électronique Po Chun-bo, formés respectivement en 1983 et en 1985. Tous deux ont été nommés d'après les sites révolutionnaires où Kim Il-sung a combattu les Japonais durant la partition. Interprétant une musique très différente de celle de leurs prédécesseurs, les deux groupes ont connu un énorme succès. L'un des secrets de ce succès était l'utilisation de la musique électronique. En Corée du Nord, le recours aux instruments électroniques dans le rock et le jazz était considéré comme tabou car ces genres musicaux étaient réputés pour détruire les pensées saines des gens. Ces nouveaux groupes ont toutefois mis en avant le fait qu'ils pratiquaient une musique électronique de style coréen, différente de la musique électronique occidentale décadente.
Le groupe Wang Jae-san jouait principalement de la musique légère, tandis que l'ensemble électronique Po Chun-bo composait des chansons qui reflétaient les dernières tendances. Ces groupes ont joui d'une très grande popularité, marquant le début de la musique électronique en Corée du Nord. La naissance de ces groupes de musique montre que le pays ne pouvait plus ignorer la tendance mondiale de la musique électronique dans les années 80. Mais malgré cet environnement d'influence étrangère, les paroles de leurs chansons portaient toujours sur le socialisme et le patriotisme, ce qui n'a, je crois, pas empêché les Nord-Coréens de trouver cette musique à la fois nouvelle et intéressante, car différents instruments et styles de chant étaient utilisés.
Dès le début, l'État ermite a su parfaitement utiliser la musique à son avantage. Le cher leader bien-aimé Kim Jong-il avait déclaré un jour qu'une seule chanson valait 10 millions de fusils et de sabres. Et de fait, il avait largement utilisé la musique à des fins politiques, lançant même la politique musicale.
En tant qu'héritier présomptif de Kim Il-sung, Kim Jong-il a d'abord travaillé au département de la propagande et de l'agitation du Parti des Travailleurs, département dont la mission est de contrôler toutes les agences de presse du pays et de gérer les contenus pertinents. Pour montrer son habileté politique, il a réinterprété les activités anti-japonaises de son père de manière moderne et les a placées au centre de la culture nord-coréenne. Pour ce faire, il a adopté la méthode la plus pratique et la plus efficace, à savoir la musique. À partir des années 90, il a ainsi mis celle-ci au premier plan. La politique musicale de Kim Jong-il était également appelée politique de la chanson. Le dirigeant accordait une grande importance à la musique qui permettait à la fois de faire connaître les politiques du parti de manière simple, rapide et pratique, de rassembler les gens et de les encourager à surmonter les difficultés qu'ils rencontraient.
Le régime de Kim Jong-un a poursuivi la politique musicale composant de nouvelles chansons à fonction idéologique et à la gloire de son dirigeant. Un exemple intéressant est celui de Molan Bong Band, décrit comme la version nord-coréenne d'un groupe de filles. La performance inaugurale de Molan Bong Band en 2012 était en effet assez peu conventionnelle.
Le Molan Bong Band a été créé par Kim Jong-un lui-même en 2012, juste après son arrivée au pouvoir. C'est lors de la performance de ce groupe en juillet de la même année que le jeune leader fit sa première apparition et dévoilait par la même occasion sa stratégie à venir. Le spectacle comprenait des chansons occidentales célèbres, dont le thème du film Rocky, cependant que des personnages de Disney apparaissaient sur scène. À travers ce concert, le dirigeant disait au monde extérieur que son pays était prêt à embrasser la culture extérieure, même américaine, et à son propre peuple qu'il devait explorer le monde. Par le biais du Molan Bong Band, le pays communiste a également tenté de s'éloigner du passé et d'apporter innovation et changement dans cette nouvelle ère.
Le Molan Bong Band, qui n'est pas monté sur scène ces dernières années, a semble-t-il été remplacé par le groupe de la Commission des Affaires d'État, lequel a fait sa première apparition lors du spectacle commémorant les vacances du nouvel an lunaire le 25 janvier 2020. À l'heure actuelle, ce groupe semble être le plus actif au nord du 38e parallèle.
Le Molan Bong Band s'est produit lors d'événements importants entre 2012 et 2017. L'apparition du groupe de la Commission des Affaires d'État en 2020 témoigne de l'aggravation de l'ambiance sociale générale. Rappelons que la Commission des Affaires d'État est l'agence officielle de l'État sous l'égide du cabinet.
En Corée du Nord, la musique n'a pour ainsi dire jamais eu d'autre dessein que de contrôler idéologiquement le peuple. Espérons que cela change et qu'elle retrouve pleinement son but originel, à savoir divertir et réconforter, mais aussi exprimer des sentiments à la fois personnels et universels et non plus politiques et idéologiques. Voilà, votre émission Trait d'Union touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Cette émission a été rédigée par Simon Lenet et présentée par Xavier Lieudet. Merci également à Maxime Lalot pour le doublage et à Kim Hong-joo pour la réalisation. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien à l'écoute de KBS World Radio.
At the point of the rapture, and of course you know that secret rapture doctrine is perhaps the most damaging one taught by Swaggart and Copenhagen and a lot of these other so-called religious leaders that are damning souls by their erroneous teaching. And of course, I'm the false prophet. Okay, have it your way. But I'm going to speak anyway. At the point of the rapture, the world, not church or saints, will be ushered into a time of turmoil, but the believers belonging to the church are saved people, not church members, will be spared this period of tribulation. Why don't you look up the word tribulation? The word tribulation is a time of testing. Now, you mean to tell me God is going to test the world? He's going to try the world? You're wrong, my friend. The